un tango, une danse, un baiser.
Du bouddha, bébé, bébé. Par les temps qui courent.
Ça y est, plus 21.
Et c'est que le moment dans cet moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Lorsque j'observe l'ensemble de mon parcours, j'ai le sentiment d'avoir tracé une ligne droite, d'avoir, par chacune de mes pièces, jalonné un chemin que je devais accomplir comme s'il n'y avait pas eu de déviation. Quand on dévie, on le sait, on le sent. Et c'est à cela que l'artiste doit s'opposer de toutes ses forces. La ligne entre deux points est nécessairement tendue, sans répit. Chaque pièce a donc été une exhortation à plus de liberté. C'est comme si j'avais cherché tout au long de ces années à accomplir une seule chose, un seul geste qui recouvrait à lui seul le questionnement d'une vie entière. En répétant le même geste, c'est sur soi que l'on œuvre. Et ce qui finit par définir une œuvre, il me semble, c'est la tension par laquelle elle est traversée. Ce que j'ai fait jusqu'ici s'apparente donc peut-être à cette image du trait, de la ligne droite, sans creux ni déviation. Ce sont vos mots, Nasser Abelhaza, cités dans le livre que Frédéric Villemeur consacre à votre travail, à votre écriture de danse et à votre parcours. Il s'appelle « Entre deux rives » et il est paru chez Actes Sud. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir.
Je crois à la perte en général,
oui.
Et j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de vide.
Mmh.
Et puis je crois qu'en effet, il faut essayer d'investir des espaces qui ne sont pas ceux qui sont utilisés quotidiennement, qu'il faut retrouver des choses enfouies, des choses oubliées. J'ai observé simplement que l'acteur a beaucoup plus de présence si rien de décoratif n'est représenté derrière lui. C'est le corps de l'acteur, les corps de l'acteur, les lignes de force qui s'échangent entre les acteurs, ce qui est tissé par la matière de l'écriture, qui finit par se voir, par se densifier. C'est ça qui fait spectacle et qui fait spectacle dans l'imaginaire des spectateurs.
C'est la voix de Claude Régis, on est en 1998 sur France Culture, il est au micro de Lucien Atoun, il dit qu'il croit à la perte. 1998, ça fait déjà plusieurs années que vous montrez votre travail, Nasser Abelhaza. Et dans ce livre, Frédéric Villemur suit bien des chemins que vous empruntez, même si dans la citation que je viens de faire de vos propos, vous parlez d'un seul chemin. Un chemin qui aurait à voir peut-être avec un manque, et si je reprends vos mots, un manque qui comble. Est-ce que vous aussi, vous croyez à la perte et au manque, comme Claude Régis ?
J'utilise assez rarement ce mot, c'est pour ça que je suis en train de me questionner au moment où je l'entends. Peut-être qu'il est, il est le moteur inconscient d'une démarche, c'est-à-dire où on tente de combler ou de retrouver cette part manquante, mais dans ma démarche au quotidien, j'ai pas ce sentiment de... d'être à la recherche de quelque chose qui manquerait. Je ne sais pas si c'est...
Lui, quand il parle de la perte, je pense qu'il parle aussi de la manière dont il désosse, dont il fait en sorte de faire manquer des choses peut-être au plateau, manquer des choses que l'on attendrait ou que l'on attendrait de voir.
D'accord. Je mets en place effectivement une matière au départ, mais je me rends compte que cette matière ne me sert qu'à enlever le superflu. Donc j'ai ce sentiment toujours de faire une sorte de sculpture à l'envers. C'est-à-dire qu'on crée une matière et ensuite on ne fait qu'enlever. Et si j'enlève, c'est pour voir apparaître quelque chose qui est peut-être davantage enfoui, quelque chose de plus dans l'inconscient, qui me donne le sentiment que quand je suis en création, de faire, non pas de créer, mais de faire apparaître quelque chose qui est en même temps inscrit dans la matière et en même temps dans mon inconscient. Tout le processus de création, s'il est question de perte au sens de se défaire de la matière, consiste effectivement à enlever ce qu'il y a en trop et ce qui nous empêche peut-être de voir ce que j'appellerais une forme d'essentiel, en fait, qui s'inscrit dans la matière et dans notre geste et dans notre présence sur le plateau.
Vous parlez de ça comme quelque chose qui aurait été à l'œuvre depuis le départ, depuis le début où vous dansez, où vous écrivez de la danse, où vous pensez de la danse ?
En fait, au début, on fait un geste, on le répète, et on ne sait pas exactement ce qu'on fait. On tente de le définir à chaque fois qu'on nous pose la question, les journalistes ou soi-même dans le travail. Et petit à petit, on prend conscience de ce qu'on est en train de faire. Moi, j'ai envie d'être honnête et de dire que c'est pas quelque chose qui est conscient. Et de toute façon, ça n'est pas ma démarche de me soumettre au conscient. Donc, je me suis rendu compte petit à petit que, effectivement, je poursuivais la même chose, qui prenait une forme différente à chaque fois, qui créait une matière chorégraphique, un imaginaire différent, mais en réalité, c'est comme si à travers, et c'est pour ça que j'évoque le trait, c'est qu'à travers chaque pièce, j'ai eu le sentiment vraiment de me diriger vers la même chose. Et mais ça, il faut un temps de travail pour se rendre compte qu'on est en train de faire la même chose. Et puis, il y a tellement de confusion dans l'acte de création, on nous dit qu'on créer une pièce, on fabrique une pièce, on est une compagnie, on est censé produire des pièces, etc. Donc il y a toute cette cacophonie autour du travail de création qui nous permet pas de voir clairement ce qui est en train de se passer. Et moi je dirais que mon travail, il est vraiment à la jonction entre le travail de l'artisan qui répète. J'écoutais cette émission que vous avez faite récemment sur Ferré et quelqu'un disait que l'artisan recherchait la perfection et l'artiste cherchait l'expression en fait. Et je me rends compte que ce que je fais se situe à la jonction entre les deux.
Quand vous dites qu'il faut 20 ans, Nasser Abelhaza, pour peut-être voir ce qu'on est en train de faire ou comprendre ce qu'on est en train de répéter, ce livre-là de Frédéric Villemur regarde ces 20 ans. Est-ce que vous, c'est un exercice que vous aviez déjà fait ou auquel vous vous êtes prêté avec plaisir ?
D'essayer de comprendre ce que je faisais ?
Avec ce regard vraiment aussi loin porté vers le passé, puisque ça commence à une pièce de 1992, voire à la danse qui précède les pièces.
Peut-être pas, je porte pas ce regard-là sur mon travail, en essayant de, peut-être que j'essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est affiné au fur et à mesure des pièces, qu'est-ce qui s'est clarifié au fur et à mesure des pièces. Mais quand j'en entends parler comme ça, par le biais de journalistes ou d'auteurs comme Frédéric, je comprends mieux quelles étaient mes obsessions, en fait. Et ça me fait voir plus clairement, parce qu'il y a des évidences quand même aussi qui nous échappent. On comprend notre processus, enfin, et encore, il m'échappe toujours, mais on tente de comprendre notre processus de création. Et en même temps, il y a des choses extrêmement évidentes qui m'apparaissent pas forcément parce que j'ai l'esprit occupé par une création, c'est extrêmement complexe, notamment quand on travaille avec d'autres interprètes. On n'est pas un sculpteur face à la matière, on est face à d'autres personnes. Il est question de comprendre leur propre mode de fonctionnement, leur sensibilité pour réussir à les faire cheminer. Donc le regard est peut-être plus confus certains endroits, mais je comprends mieux effectivement ce qui a été mon moteur, ce qui est souvent revenu, le regard de l'autre, la lecture de l'autre de mon travail me permet aussi, et je fais partie des artistes qui lisent les critiques, pas pour entendre des compliments ou des non-compliments, mais pour comprendre la lecture et le regard de l'autre. Mais je continue à tendre vers l'avant plutôt que voilà, me retourner sur les pièces. J'ai l'impression que le temps m'est compté et que chaque pièce doit être de plus en plus précise, comme si je tendais vers un point précis. Je fais pas ça aussi, ce mouvement de retour, parce que il y a une partie de moi qui effectivement ne se dépose pas, qui tend. Et puis ça voudrait dire que je serais amenée à appréhender mon travail comme une façon de faire, et je ne le souhaite pas. Voilà.
Je parlais de la danse avant même les pièces. Frédéric Villemur, et probablement en discutant avec vous, a essayé de chercher les premiers moments où vous avez dansé. Qu'est-ce que ça voulait dire pour vous de danser au départ ? Est-ce que vous vous gardez, alors vous parlez beaucoup de conscience, est-ce que vous gardez conscience de la naissance de la danse chez vous ?
Mais quand j'ai commencé, en fait, effectivement, j'ai l'impression d'avoir toujours fait la même chose, mais il a fallu faire un travail sur soi pour que cette parole se clarifie. Mais il y a certaines choses quand même qui étaient évidentes dès le début et que je souhaitais mettre sur le plateau. Je souhaitais relier l'individu et le corps à tout ce qui l'entoure. L'esprit au corps, le corps à l'espace, l'espace, le corps à la lumière, etc. Donc cette nécessité d'unification, je pense qu'elle provient de mon parcours, de mon vécu, d'être effectivement, de m'inscrire comme ça entre certaine manière entre deux rives, entre deux cultures. Donc j'ai eu un réflexe comme ça, très de survie, de vouloir réunifier les choses. Donc ça, c'était une évidence. En fait, on crée avec ce dont on n'a pas besoin, mais je vais peut-être me contredire par rapport à ce que j'ai dit au début, du coup, mais on vient pas réparer non plus, mais on vient créer une espèce de matière manquante à ma vie, peut-être, à ce moment-là, l'individu que j'étais, et créer une espèce d'univers comme ça qui viendrait combler ce qui peut-être est en creux dans sa propre vie. Et cette nécessité de l'unité, cette nécessité que le corps soit en lien, c'est-à-dire qu'il révèle pour moi une autre dimension, il n'est pas la finalité, en fait, sur le plateau. Le regard du spectateur n'est pas censé se poser... Il est censé traverser le corps et non pas se poser sur le corps ou s'arrêter au corps. Donc ces choses-là, je suis rentrée dans la danse avec tout ça, avec ce besoin de retrouver cette unité, de recréer cette dimension qui m'est vitale, qui va un peu au-delà de l'être. Et petit à petit, dans toutes les pièces, ce qui s'est produit, c'est que cette chose est devenue de plus en plus claire. Elle m'a été à certains moments même validée en quelque sorte. C'est-à-dire quand je me souviens d'une réflexion d'une spectatrice, c'était très tôt, hein, c'était quasiment à la deuxième ou troisième pièce, qui disait « c'est étonnant, on n'a pas le sentiment de regarder le corps, mais on a l'impression qu'il est un intermédiaire entre nous et autre chose ». Et cette indication, pour moi, était un signe que la direction quasi inconsciente que je m'étais donnée pouvait se vérifier sur le plateau. Donc après, toutes les pièces, même si ça a été des univers différents, même si à travers chaque pièce je travaille un imaginaire sur une base de d'éléments que j'appelle une image, en fait, qui va stimuler, créer un imaginaire chez l'interprète et aussi chez le spectateur, et qui du coup amène une traversée, un voyage intérieur différent de pièce en pièce, malgré tout le geste intérieur, il est quand même où ces fondamentaux, en tout cas, qui viennent donner corps à ce qui se produit sur le plateau, sont restés les mêmes. Je n'ai vraiment pas. Je sais que j'ai souvent les partenaires nous posent la question de la nouvelle pièce. Il s'agit de quoi? Est-ce qu'il y a un nouveau thème? Est-ce qu'il y a? Et c'est vraiment une question qui m'a toujours posé problème, parce que c'est comme si on nous poussait à autre chose, on nous poussait à du nouveau, et puis qu'est-ce que ça veut dire nouveau, etc., etc. Et à un moment donné, on me dit, mais il faut, on fait des pièces avec un solo, un duo, on nous demande de faire une pièce de groupe, on fait une pièce de groupe, on nous demande l'inverse, etc. Donc en fait, c'est le spectateur ou les professionnels qui nous entourent arrivent avec leurs propres attentes et qui sont plus ou moins légitimes, mais qui sont pas. En fait, il y a une multitude d'attentes. Il faut pouvoir identifier celles qui m'intéressent, c'est celles qui sont quasiment pas conscientes chez le spectateur quand il ne sait pas que. Alors, il vient en se disant qu'il a envie d'une manière ou d'une autre d'être diverti, surtout pour la danse, qu'on l'emmène ailleurs, qu'on crée des émotions, etc., etc. Mais il y a des choses plus enfouies et il faut pouvoir aller les stimuler. Mais le pari que j'ai fait en me disant, voilà, je garde, par exemple, pendant 15 ans, j'ai gardé les mêmes interprètes sur le plateau, les mêmes costumes, l'espace vide. Et je voulais me poser la question de qu'est-ce que ça veut dire pour un artiste d'aller plus loin. Finalement, si je garde ces mêmes éléments, si je m'autorise pas à changer le nombre de danseurs, si je m'autorise pas à changer la thématique de quoi que ce soit, ça voudrait dire quoi? Et je pense que ce besoin de me mettre moi-même face à des contraintes très fortes et voire à des... presque à des sensations de mur, c'est mon moteur. C'est-à-dire que je prends le risque, dans l'acte de création même, qu'il ne se produise rien. Et ça, pour moi, c'est totalement inhérent à la création. C'est-à-dire que la création, c'est pas on part de l'idée qu'on va faire quelque chose et on est sûr qu'il va se produire quelque chose. Moi, j'intègre à ça la possibilité qu'il ne se passe rien. Si je n'ajoute pas d'artifice, si je ne dévie pas de mes orientations... il se peut qu'il ne se passe rien. Mais j'assiste à ce miracle qui se répète à longueur de temps, depuis maintenant plus de 20 ans. Je me rends compte qu'il se passe à chaque fois quelque chose de différent, mais qui ne procède pas ni de ma volonté, ni de mon intellect, c'est-à-dire de me dire, tiens, j'ai envie de parler de telle chose ou telle chose. C'est à chaque fois différent, je le constate. Et c'est cette chose-là que j'ai envie de donner à voir. C'est pas moi qui fais une nouvelle pièce en attirant le regard du public sur le fait que cette fois-ci, par exemple, ça va être une pièce de groupe, comme si c'était ça l'intérêt de la pièce, mais faire en sorte qu'on regarde en se disant... je sais que dans les autres arts, c'est plus évident, dans le théâtre, ou dans la littérature, ou même dans la peinture, un artiste qui se répète, on sait que c'est pas possible. Donc on va chercher qu'est-ce qui est différent d'une œuvre à l'autre. Mais dans la danse, si vous changez pas le nombre de danseurs, si vous changez pas les costumes, la scénographie, on ne sait pas vraiment ce qui... Et on est prêt à accepter que la gestuelle soit la même, paradoxalement. C'est-à-dire que la gestuelle, l'écriture du corps peut absolument être la même, mais tant que tous ces artifices autour sont différents, on a le sentiment qu'il se passe quelque chose de différent. Et donc ce que j'essaye à mon niveau de changer un peu auprès du public vis-à-vis de la danse, c'est de dire non, il y a une autre façon de regarder la danse qui est que elle ne répond pas à des attentes superficielles, mais quelque chose d'une autre nature, d'une expérience plus profonde qui se produit et qui ne tient pas, encore une fois, à ce qu'on croit percevoir sur le plateau.
Des gens plus calés que moi, ou plus religieux que moi, ont écrit sur la force de communication du silence et sur l'importance des choses qui peuvent être transmises, justement, en dehors de la parole, qui devient très vite un bavardage saturé de mots qui n'ont même plus de sens, à dire la vérité. Et ce sont des agressions que je considère, en fait, presque comme des crimes contre l'humanité, parce qu'en fait, ça détruit l'essence des hommes. C'est pour ça que j'essaye de réagir extrêmement fort. Et on voit que les gens supportent difficilement le silence, supportent difficilement la lenteur, alors que la vitesse nous vole de l'espace et nous vole du temps. Et on se laisse dépouiller de notre temps et de notre espace. De même qu'on se laisse dépouiller de notre silence et de notre propre réflexion, donc de notre propre jugement. Et alors, si on fabrique des gens qui n'ont plus de faculté de jugement, on peut naturellement les faire voter n'importe comment. Donc, ce n'est pas un théâtre politique que je fais, mais je crois qu'il y a quand même une tentative. Je pense que ça ne peut se faire que dans un espace réduit, comme le théâtre, devant un petit nombre de gens. Mais je pense qu'il faut créer des endroits de résistance, des endroits de protestation, où ceux qui sont... écœurés de l'invasion du monde extérieur dans leur monde intérieur, peuvent venir puiser un peu de silence.
C'est une archive de Claude Régis encore, puis ça s'arrêtera là, notre cheminement avec lui pour notre entretien. Nasser Abelhazzar, on est en 2003, il est au micro de Kathleen Evin. Il dit qu'il faut créer des moments de résistance ou une sorte de rencontre entre un public et l'expérience de l'art serait une riposte au vol du temps et de l'espace. Vous avez commencé par dire le sens qu'avait eu pour vous ce travail de plus de 20 ans d'écriture de danse, et notamment dans la manière non pas de répéter un geste, mais de le creuser. Qu'est-ce que vous attendez, puisque le miracle se produit, il se passe quelque chose, qu'est-ce que vous attendez comme, j'ai pas envie de dire résultat, mais qu'est-ce que ça peut produire de proposer ça? Lui, il dit que c'est une proposition politique de faire ça dans l'espace d'un théâtre. Vous, vous attendez quoi de cette proposition faite au public?
Ça l'est, évidemment, politique, même si je me suis souvent tenue à distance de ce type de
qualification rapide.
Oui. Ce que j'attends du public, c'est extrêmement complexe, en fait, ce qui se produit entre le plateau et le spectateur. Ça peut tout à fait être très simple et être une sorte de commerce de désir entre ce qu'attend le public. Il vient, il a une projection d'attente. Et en fait, très tôt, je me suis rendu compte que il y avait différents niveaux d'attente chez lui. C'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que Claude Régis dit les gens qui seraient dégoûtés en quelque sorte du système pourraient venir chercher ce type de rapport à l'art. Moi, c'est peut-être les autres qui m'intéressent aussi. Parce que on a un public qui vient, notamment vis-à-vis de la danse, où les attentes sont très particulières. Et je me rends compte, mais je pense que j'ai compris le public en observant mes propres réactions aussi, c'est que si on arrive à établir une relation vraie, en fait, avec lui. C'est-à-dire, ce n'est pas de la fiction qui va se produire sur le plateau, c'est véritablement un individu qui va s'engager et faire l'expérience, une expérience humaine, voilà, assez forte, et qui va l'inclure dans cette expérience. À partir du moment où on lui donne, j'aime utiliser le terme fréquence, en fait, on lui fait identifier cette fréquence, on le détourne peu à peu de ses attentes, en fait. Ses attentes légitimes, hein, dans un premier temps, il a passé une journée au travail, il a envie d'autre chose, il a envie de se changer les idées, il a envie qu'on, voilà, qu'on ne l'accable pas avec d'autres informations, etc. Mais c'est un mélange de choses. Et quand on arrive à établir cette fréquence avec lui et très lentement le dévier de ça et atteindre chez lui aussi des profondeurs, en quelque sorte, des attentes plus profondes, là, il se passe autre chose. Vraiment, ça s'est vérifié bon nombre de fois sur le plateau. Là, il se déleste de ses attentes, de ses résistances. Il est ouvert, et disponible, à l'écoute. Il accepte profondément cette expérience. Et d'une certaine manière, il la vit lui aussi. Et quand on arrive à cet endroit-là, je me rends compte que peu importe ce qu'on met sur le plateau, peu importe la forme que ça prend, l'esthétique, la durée, cet espace-temps comme ça qui nous réunit et pendant lequel il y a une forme de communion très forte en fait qui s'établit, je pense que c'est, vous parlez de résultat, c'est pas le résultat, mais c'est une des finalités que je recherche dans la pièce. Parce qu'une fois que l'être s'est défait de toutes ses attentes, il n'est plus le même, une fois qu'il sort. Il a subi une sorte de réglage différent, il est au plus près de lui-même. Je me souviens, je cite beaucoup Claude Régis, mais en fait je dois être celle qui a vu le moins de pièces de lui, j'en ai vu, je crois, deux. Et la dernière que j'ai vue, on sortait du théâtre, et une dame à côté de moi me dit... Mais c'est surtout son état aussi qui m'a marqué. C'est l'état dans lequel ça met, c'est-à-dire que ça nous ramène à nous-mêmes et ça nous coupe, comme pourrait le faire la nature ou d'autres choses, hein. Ça nous coupe de toutes ces tout ce parasitage dans lequel on vit en permanence. Et elle me dit ce que font les autres, c'est ordinaire. Et ce constat-là, c'est... Et je l'ai souvent cité, cette formule, parce que je me suis dit, mais effectivement, l'art, il est là pour créer un moment hors du commun. Un moment qui nous fait une expérience qu'on vit avec tous ses sens. Donc ça, c'est une des finalités. J'en ai pas qu'une quand je fais une pièce. Je me rends compte qu'il y a... Et c'est déjà arrivé bon nombre de fois dans la même salle, des spectateurs qui vont avoir une lecture plus cérébrale en disant « Tiens, moi j'ai regardé la moindre variation qui se produisait tout le long de la pièce. L'autre va faire une expérience sensorielle plus forte. Donc une œuvre doit, dans sa structure, dans sa propre complexité, doit permettre différents types de lectures, différents types d'approches, différentes manières de s'y relier, mais moi je dirais que je placerais une chose au-dessus de tout le reste, c'est l'expérience vraie qu'on fait. C'est-à-dire que...
Qu'est-ce que ça bouge une fois qu'on a été déréglé par l'expérience d'une pièce comme la vôtre ou d'une pièce comme celle de Claude Régis ? Qu'est-ce que ça bouge quand on est sorti du théâtre ?
On n'est pas que déréglé, on est recentré autrement. Je le dis hein, de manière un peu confuse, mais on est ramené à soi, à des notions plus...
Qu'est-ce que ça fait de nous dehors ?
Je ne sais pas si ça répond à la question, mais par exemple, quand je travaille sur le mouvement, une des premières choses que j'ai, idem, inconsciemment mise en place, c'est, je me suis dit, mais si j'enlève le mouvement que je fabrique parce que je veux montrer à l'autre que j'existe. Si j'enlève le mouvement que je fabrique parce que je veux séduire l'autre ou parce que je veux me prouver telle ou telle chose, ou si on enlève tous ces mouvements, on pourrait faire la même chose avec la parole. Quel type de mouvement il reste ? Donc, quand vous faites naître ce type de mouvement et que vous reliez un individu à ce mouvement, ça agit sur lui et ça le ramène à une perception, une vision, une appréhension, j'ai envie de dire plus vraie. C'est-à-dire, en tout cas, détachée de certaines considérations plus superficielles. Donc je le sens, je le vois dans le visage des interprètes, je le vois dans le visage de certaines personnes sur le plateau du public. Quand soi-même on se relie à cette source, à cet endroit de vérité en soi, on amène l'autre à rejoindre cet endroit. Et ce que ça change tout, vraiment. Moi, je me souviens, ça a été, je crois, le plus beau compliment qu'une danseuse m'ait fait. Elle a juste pris mes ateliers et c'était au tout début. Donc je me dis, mon Dieu, pourtant à cette époque-là, les choses étaient encore moins claires. Mais elle m'a dit, en pratiquant cette danse, je fais la différence entre le vrai et le faux. Et ça m'a beaucoup questionnée, ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui donne le sentiment qu'une chose, un mouvement ou une parole est vraie, et qu'est-ce qui donne le sentiment qu'elle est, enveloppée d'autres choses, je pense que c'est beaucoup de choses proviennent de l'interprète, hein, pour moi sur le plateau. C'est le degré de vérité qu'il inscrit lui-même sur le plateau, toute forme d'artifice qu'il ne s'autorise pas, tout ça, ça le régule, ça le place à un endroit qui entre en résonance nécessairement avec le positionnement du spectateur.
Les réunions collectives, ce qu'on appelle les SEMA, qui ont lieu aussi bien chez les chiites que chez les sunnites, principalement en Anatolie, sont des cérémonies au cours desquelles il y a des danses ou des actes collectifs qui, sans s'appeler danse, sont apparentés à des danses. Ce qui est le plus célèbre, certainement, c'est le SEMA, la danse des derviches tourneurs. Mais alors, la danse des derviches tourneurs, elle a pour but, évidemment, d'accéder à un état d'extase. Je l'ai bien observé, et j'ai pu y remarquer la recherche d'un état second, d'un état qu'ils appellent de communication, d'atteinte du divin, de passage de l'humain au divin, dans lequel on cherche apparemment à accéder à une sorte d'ivresse de tous les sens. Mais ce qui est très important à voir, c'est d'observer le rôle de celui qui guide, le maître de cérémonie. Et le maître de cérémonie provoque toujours, dès que une certaine extase s'empare des derviches, il les stoppe d'un geste et il leur fait chanter une sorte de petit cantique très simple, quelque chose, on pourrait dire en langage vulgaire, quelque chose qui remet les pieds sur terre. Et quand ils se sont bien redescendus comme ça, ils repartent à nouveau. Et à chaque fois, il s'agit, selon ce que j'ai pu observer, il s'agit pour eux de revenir au réel, et tout en ayant gagné un échelon dans la participation d'un ailleurs.
C'est la voix d'Alain Gerbrandt qu'on entendait en 1997, avant celle des musiciens derviches du Kurdistan, menés par Khalif Karim Safati. Nasser Abelhaza, on entend dans ce que dit Alain Gerbrandt et de son observation de la scène et du moment collectif des derviches tourneurs, quelque chose de la communication ou de la manière dont vous-même vous parliez de se relier à plus grand, de relier le corps à l'espace, l'espace à autre chose, l'individu à son corps, l'esprit au corps. Est-ce que vous aussi, c'est une danse que vous avez regardée, celle des derviches tourneurs ?
Non. Non, j'ai juste une seule fois partagé une soirée avec des derviches tourneurs qui venaient de Turquie. Et j'ai eu cette discussion avec l'un d'entre eux. Je lui ai demandé ce qu'il recherchait dans le mouvement répétitif, parce que on voit une multitude de mouvements répétitifs chez différents chorégraphes, mais ça ne veut pas dire la même chose, ça n'a pas les mêmes aspirations. Et il m'a dit, on recherche l'élévation de la conscience. Donc en fait, la répétition...
D'ailleurs, Gerbrandt parle de prendre un échelon.
Oui, il s'agit de ça. Parce que le mouvement répétitif, il peut aussi amener à la transe, Il peut aussi amener, ce que cherchent certains chorégraphes, à une forme de maîtrise mentale et physique du mouvement, ce qui ne m'intéresse pas non plus. En fait, j'avais vu effectivement il y a très longtemps un groupe de danse traditionnelle comme ça, et cet état de communion à travers le mouvement répétitif m'avait énormément marqué. Et ça a totalement transformé ma façon de créer. C'est-à-dire que je suis arrivée dans la chorégraphie, effectivement, en entendant dire que chorégraphier, c'est produire une certaine somme de mouvements sur le plateau, il y a des expressions comme ça, occuper l'espace, ce genre de choses. Et donc j'ai dû faire deux pièces comme ça, où je me suis exercée à pratiquer la chorégraphie. Et puis en fait, de par mon parcours, mon vécu, qui fait que j'ai dû pratiquer la danse de manière un petit peu clandestine et dans des espaces très contraints et très réduits, j'ai été amenée...
Peut-être qu'il faut détailler ça.
J'ai souvent raconté cette histoire, c'est pour ça que je voulais vous l'épargner, mais en fait, j'ai pratiqué la danse dans ma chambre très longtemps. Et il y a ces deux choses qui pour moi, très vite se sont opposées. C'est le désir très fort de liberté. Et en même temps, ces contraintes qui m'étaient posé de l'extérieur.
Et qui était à la fois une contrainte d'espace, mais aussi de regard. C'est-à-dire la chambre, c'est à la fois un petit espace, mais c'est aussi un espace où on est... En tout cas, où vous l'exerciez en clandestinité.
Je n'avais pas la possibilité de prendre des cours, de sortir de la maison. On sortait très peu, je n'avais pas le droit de sortir, à part pour aller étudier, etc. Ces familles, cette première génération d'immigrés qui est arrivée, qui a vraiment, pour certains, resserré le cocon... très fortement. Donc j'avais cette double tension et ce qui m'a en quelque sorte délivrée, c'est de me dire que, et je pense que ça provient aussi du fait d'avoir découvert la littérature, la poésie, de me rendre compte que la liberté était au-dedans, elle était placée vraiment au-dedans. Et à partir de là, j'ai vraiment eu le sentiment de plonger à l'intérieur de moi, d'être en quête, mais à la verticale, et non plus d'être... Comme le dit ce philosophe, il y a deux manières d'explorer le monde. Soit on part à sa découverte, on voyage, soit effectivement on plonge à l'intérieur de soi. Et ça a été un vrai sentiment de délivrance que d'aller à cet endroit. Donc ma danse a toujours été une danse qui se place à l'intérieur et qui traverse le corps, qui émane du corps et qui prend place dans l'espace. Ça, Mais j'étais encore encombrée avec l'idée de chorégraphier, d'écrire le corps. Et j'ai vu un mouvement dans une danse traditionnelle, mais c'est un mouvement récurrent qui traverse de nombreuses danses. C'est un mouvement un balancier, en fait. Et ce balancier, c'est un mouvement qu'on fait naturellement quand on se sent... Voilà, quand on se sent bien, ou quand on a envie de se détendre, etc. C'est un mouvement qui crée du lien dans le groupe. Et je suis partie de ce mouvement et je me suis dit, il a quelque chose, c'est comme un point névralgique, ce mouvement, et vraiment transforme complètement la posture mentale, physique. Ça a été mon point de départ et je me suis dit, si je refuse de chorégraphier, si je n'ajoute rien, je resserre les taux à chaque fois un peu plus. Hein. Donc, si je n'ajoute rien, qu'est-ce qui va se produire? Donc, j'ai observé ce mouvement pendant très longtemps. Ça a donné une pièce où, effectivement, ce mouvement, on se rend compte qu'en le répétant, il passe du balancier en s'amplifiant du balancier au 8. Donc, ça devient un mouvement infini. Il s'accélère, il s'amplifie, il prend plus de place dans le corps, il s'ouvre dans l'espace, etc. Et en fait, c'est qu'une progression de 50 minutes de ce mouvement-là. Et à ce moment-là, je crois que j'ai vraiment renoncé au corps, au niveau chorégraphique. C'est-à-dire de me dire, mais c'est absolument pas là que je dois porter mon regard. Il m'encombrait, en fait, jusque-là. Donc ça s'est produit aux alentours de 2004. Donc à partir de là, j'ai vraiment fabriqué une façon, petit à petit, hein, c'est des nouveaux outils, une façon de décrire ce qui se passait au-dedans, comme si on avait une partition à l'intérieur. Donc j'appelle ça, comme je vous le disais tout à l'heure, une image qui a certaines caractéristiques qui vont permettre à tous les interprètes de l'alimenter, de la nourrir, mais elle constitue une vraie partition. Et si on tient cette partition et qu'on focalise l'esprit uniquement sur cette partition, sur cette structure-là, en lâchant complètement tout le reste, c'est-à-dire le fonctionnement du corps, les réactions du corps, les résistances, etc. Donc on a une chose qui travaille comme ça au-dedans, qui transforme le corps, qui met en mouvement le corps. Et en fait, en faisant ça, j'ai trouvé ma propre dynamique, en fait. Comment le mouvement, d'où part le mouvement, à quel endroit il naît, comment il se propage, comment il s'inscrit dans l'espace. Et c'est là que j'ai commencé à entendre dire, effectivement, que ça faisait penser aux derviches, à la transe, etc. Parce qu'il y a un profond lâcher-prise. Le mental ne doit plus être un barrage, le corps non plus, les résistances, quelles qu'elles soient, émotionnelles, etc. Tout ça, il y a un travail d'introspection très important chez l'interprète pour pouvoir lâcher tout ça. Et en même temps, cette structure interne est de plus en plus claire, de plus en plus précise, à mesure que tous les endroits de résistance vont céder. Et ça nous a indiqué un endroit qui, effectivement, s'apparente à ce que je viens d'entendre, un échelon supplémentaire, une forme de transcendance, de dépassement, où on sent que c'est comme si on sortait de soi, en quelque sorte, parce que on a une connaissance de soi, de ses propres limites, de ce qu'on peut faire ou non. Et puis, dans ce temps d'inconscience, de lâcher prise, en tout cas, on se rend compte que tout ça, c'est contredit. Donc, c'est vraiment, il y a un dépassement de soi qui s'opère. Donc c'est, mais à la différence peut-être des derviches, mais ce que je viens d'entendre quand il dit qu'il les arrête à certains moments pour éviter justement cette trop grande ivresse et qui pourrait basculer dans une forme de transe, c'est intéressant parce que ce qui est important, c'est comment
ils arrêtent pour les faire chanter.
Oui, mais ils détournent complètement leur attention. Effectivement, je sais pas quelle est la fonction de ce chant, mais j'ai l'impression que c'est vraiment, il le dit pour les ramener sur terre, et ensuite ils peuvent repartir. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette jonction entre une conscience très acérée et un très grand lâcher prise, parce que finalement, tout ce qu'on fait dans le corps, la manière dont on le fait, on le met en mouvement dans l'espace, etc. Il y a énormément de choses, si ce n'est pas la majorité des choses, qui proviennent d'un désir de contrôle, en fait. On veut contrôler ce qu'on fait. J'ai l'impression que l'art, et notamment la danse, ça ne se passe pas à l'endroit où on contrôle, mais plutôt à l'endroit où on fait en sorte que certaines choses nous échappent. Donc à partir de là, ça a transformé complètement ma façon d'écrire. Et je me rends compte qu'elle est à l'inverse de la formation du danseur qui apprend à maîtriser son corps, à lui faire faire un certain nombre de choses. Et puis d'un coup, on lui demande de partir à la découverte de cette jungle intérieure, qu'est-ce que la réaction de l'autre face à moi va provoquer à l'intérieur, quel type de résistance, quel type de subterfuge va se mettre en place, etc. Donc tout ça, on est tenu de le mettre au clair pour pouvoir mettre en place cette structure, ce geste intérieur qui, lui, rejoint ce que je disais tout à l'heure, le geste de l'artisan, qui est qui doit devenir au fil du temps de plus en plus clair, de plus en plus précis, à mesure que tout autour, tout doit lâcher. Mais ce qui est un peu différent, je disais, par rapport au derviche, c'est qu'effectivement, cette structure, elle génère quand même un imaginaire. Il y a une écriture quand même dans l'espace, il y a un début, il y a une fin, donc on est tenu, le derviche tourne sur lui-même, un certain temps il s'arrête, il tourne, il s'arrête. Nous, il y a une espèce de tension quand même dramaturgique dans les pièces qu'on doit aussi ajouter dans, à mettre en conscience. Voilà.
Tu vois, un corps libre, c'est un corps qui est disponible. Un corps libre, c'est un corps qui est juste assez tendu pour pas être influencé par des éléments extérieurs, mais qui est assez détendu pour être libre de ses mouvements et être disponible.
Pas mal.
Un corps libre, c'est un corps au service du cerveau.
Au service du cerveau.
Là, je suis d'accord, un corps libre, c'est un corps qui peut répondre à tous les stimuli, mais suivant sa propre logique.
Un corps libre, c'est d'abord un corps énergique, enfin avec une position énergique et tonique. Pour moi, un corps libre, c'est un corps ouvert et réceptif.
Continue. Qu'est-ce que tu entends ? Le bruit. C'est ce qu'on entend aussi, le bruit. Fais-nous entendre quelque chose, pas voir, et sentir si possible. Ça piétine. Fais-nous entendre autre chose. Là où tu le fais arriver, c'est le plus important. Il n'y a aucune fin sur le plateau ni dans le corps. Cela arrive et se déploie sans fin ni finalité. Le flux t'emporte, ce n'est pas une course. Tu tombes dans l'espace, tu n'es pas porté. Laisse-toi traverser, ne cours pas. On ne déplace pas quelque chose d'installé. On s'ouvre au vertige du flux et on est placé. Je ne contrôle pas. Je vais tout lâcher et cela va se placer au bon endroit. Vous êtes à l'endroit où ça se mélange. Vous êtes le creuset des sons, de la lumière, de l'obscurité et de la musique. Ce n'est pas la vitesse du flux qu'on cherche. C'est ce que tu fais entendre. Vous croyez tous qu'il faut montrer. Mais rien n'existe surexposé au plateau dans cette chorégraphie. Lorsqu'on est en présence d'une mécanique des corps, alors il n'y a rien derrière et il y a désolation. Vous ne prenez aucun risque. Vous vous êtes nivelé par vous-même. Les unes se jettent dans le vide, les autres démarrent avec une action physique sur le plateau. Qui se risque le plus ici ? Les hommes ? Les femmes ? Emmenez les autres, sinon cela manque de générosité. Pensez à l'infiniment petit dans l'infiniment grand. Il y a des transgressions possibles dans ce travail. Mais parce que vous y êtes à un moment. Décrochez la forme de ce qui met la forme en mouvement. Vous ne devez pas vous soucier de la forme que cela prend. Vous ne devez pas être spectateur de la forme, et le public non plus. Déverrouillez les espaces. Comment cette chose peut-elle durer sans que cela se comptabilise et sans que cela prête à une fin ?
Bélazard, on entendait dans la voix de Romain de Bec de Lièvre des moments de répétition qui sont reproduits dans le livre de Frédéric Villemur paru chez Actes Sud Entre deux rives. Et on entend, parce qu'on ne peut pas voir dans le livre, on vous entend parler, on vous entend dire des choses à vos interprètes. Jusqu'à maintenant, dans cet entretien, vous avez exprimer l'endroit de votre recherche, ce vers quoi vous tendez avec de plus en plus de précision, y compris dans la manière dont vous l'avez dit. Reste à savoir maintenant comment le partager. Comment le partager lorsque, entre guillemets, vous faites danser d'autres personnes, vous leur proposez ce chemin-là. Ça passe donc, on l'entend dans cet extrait lu par Romain de Bec de Lièvre, par les mots.
Oui, par les mots, mais pas seulement, évidemment, c'est plus complexe que ça. Et en écoutant les remarques que je fais qui vont un petit peu dans toutes les directions, très souvent c'est ne pas, donc c'est enlever, et parfois c'est restimuler certaines choses. En fait, mon état physique, mon état mental, les mots que j'utilise, tout joue un rôle très important. C'est-à-dire que quand on veut faire sentir des choses dans le corps, ça exclut un certain type de raisonnement et d'articulation des mots. On se met à parler d'une certaine manière pour faire sentir au corps, parce que sinon on est dans cette double activité où on a une activité mentale et c'est souvent d'ailleurs ce que je constate, y compris chez le danseur, et on a ce que le corps essaie de sentir. Il y a peut-être une façon de parler, une façon de dire les choses, de relier en permanence ce qu'on met en conscience, les mots qu'on utilise et la manière dont on sollicite le corps. Donc ça, c'est très important. Parce que je sais que de l'endroit où je parle à l'interprète, je vais activer le même endroit chez lui. Donc si ma tête fonctionne, je fais fonctionner sa tête. Donc j'en tiens compte, c'est très important. D'ailleurs, je me disais que depuis tout à l'heure, les réglages que je fais là dans cet entretien, ils sont de même nature en fait.
Le cas pour nous chaque jour.
Mais c'est absolument ça.
Pour Romain et moi.
C'est de l'interprétation.
On se règle en permanence sur les personnes qu'on reçoit.
Absolument. C'est et on sent le moment où effectivement tout est unifié dans la pensée et dans le corps quand il n'y a plus de résistance. Donc il y a ça qui joue un rôle. Les mots sont importants. Vraiment, je les utilise comme des leviers, des moyens de stimuler, mais...
Vous parliez de réglages tout à l'heure, et j'écoutais la voix de Romain comme, en effet, des choses qu'on peut tourner, quoi. Ouais. Comme si l'espace était une sorte de grande mécanique et vous agissez à cet endroit-là, à cet endroit-là, à cet endroit-là.
Dans la voix, vous pouviez très bien nous faire entendre que les mots, ou votre voix... souvent c'est ce qu'on entend d'ailleurs, on entend la voix de l'autre dire la chose comme vous pouviez vraiment nous faire entendre. Et c'est là où je faisais allusion à cette émission de Ferré, parce que on se demande pourquoi j'en parlais tout à l'heure, mais c'est parce que la chanteuse vous a dit à un moment donné, c'est un texte qu'on ne peut pas chanter si on n'est pas là. C'est absolument une chose que je peux appliquer à mon travail. C'est la grosse difficulté, la plus grande difficulté, c'est être là pour faire résonner de cette manière-là les choses. L'interprétation au sens où on l'entend, je comprends une chose d'une certaine manière et je vais tenter de mettre ma sensibilité au service de cette chose, tout ça, ça n'a pas de sens pour moi. C'est l'interpréter, c'est donner la vibration la plus juste aux mots, aux mouvements. C'est comme si il y avait au cœur un endroit, un point, comme une cible, comme ça, à atteindre. Et quand on touche cet endroit-là, ça parle au corps, au sang, il y a tout qui vibre chez l'être. Donc tous ces éléments entrent en jeu quand on dirige un interprète. Ensuite, comment je m'y prends pour le guider, sincèrement, et je pense que je fais bien de faire ça, c'est je ne sais pas et je ne veux pas savoir. C'est-à-dire qu'en fonction de la personne que j'ai en face de moi, en fonction de la nature de ses résistances, de sa posture, de sa propre compréhension des choses, de ses propres projections, etc., le chemin va être différent. À chaque fois, je vais devoir... j'ai dans cette pièce, par exemple, dans la nouvelle création, j'ai une personne qui vient du conservatoire, donc elle a une certaine histoire de corps, une certaine culture, une certaine compréhension. Je me rends compte que le danseur stocke dans un premier temps les informations dans son mental, il prend un certain plaisir intellectuel à les concevoir, et dans un second temps, il va soumettre le corps à ça, au mental. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours le sentiment qu'il lui fait une dictée. C'est-à-dire que le corps va essayer de traduire plus ou moins ce qui s'est passé dans la tête. Et l'erreur a été faite en amont. C'est-à-dire que le moment d'appréhension ne doit pas être mental. Je dois visualiser la chose, je dois la sentir, je dois la comprendre, je dois l'entendre, absolument comme l'enfant se relie à son propre imaginaire. Et de cette manière-là, il y a une chose beaucoup plus entière comme ça qui se produit chez l'individu, mais pour arriver justement à cette appréhension entière, il y a tout un cheminement, et je me rends compte qu'il y a beaucoup d'ailleurs de l'idée qu'on se fait de la chose est souvent une entrave. Donc dans la manière de les guider, c'est leur faire prendre conscience de tout, les possibilités j'ai envie de dire, de pièges, d'écueils. Moi, j'ai mis 30 ans à les découvrir. C'est-à-dire que si vous me poussez à cet endroit-là, que je suis dans telle situation, je vais réagir de cette manière-là. Mais pour ça, je suis un petit peu tombée dans tous les pièges pour aujourd'hui me dire, bon, je sais que... je sais comment cheminer à l'intérieur de moi-même, ou je sais mieux cheminer à l'intérieur de moi-même. Et quand j'ai des danseurs en face de moi qui ont des histoires de corps et qui arrivent avec la plupart du temps même le fantasme de la danse, et que je me mets à leur dire qu'il faut qu'ils renoncent à la danse pour se relier à eux-mêmes d'une certaine manière, pour que ça se mette à danser différemment, bon, déjà ils comprennent pas. C'est-à-dire que pour eux, c'est danser, c'est répondre à, encore une fois, et j'ai l'impression que tout le monde fait un peu ça, le spectateur à son niveau, c'est répondre à ses propres attentes, alors qu'en réalité c'est travailler sur soi, mettre au clair sa propre mécanique pour faire advenir un certain nombre de choses qui sont le fruit de l'imaginaire, mais qui ne sont pas des choses qu'on connaît déjà et qu'on va mettre en pratique. Donc c'est le chemin est vraiment à chaque fois différent. Là, j'ai 5 personnes totalement différentes. Il y a un danseur de rue, il y a une danseuse débutante, il y a... Et pour arriver à ce corps commun, je suis obligée d'être à l'écoute de chacun, de sa manière de cheminer, de ses peurs. J'ai pas encore utilisé le mot, j'aurais dû. Ses résistances, de ses compréhensions partielles, parfois. Donc c'est vraiment le... Je crois qu'il n'y a rien de plus complexe que de diriger un être humain, en fait.
Demain à Alger, à 14h, heure algérienne, Inch'Allah.
Comme s'il était imaginable qu'à un moment donné, je puisse faire un choix définitif. Je crois que je suis condamné à l'entre-deux. Par exemple, je m'interroge des fois sur l'endroit où je vais mourir. Et je me pose la question de du quel côté des deux rives je vais être enterré. J'ai parlé avec une vieille tante à moi et elle me dit « Toute terre est bonne à ensevelir, pour, à couvrir le corps. » Et mais en même temps, je me pose la question, j'aurais aimé par exemple être spécifiquement d'un petit village des Pyrénées et savoir que je vais être enterré là. Mais j'ai peur d'être enterré en Algérie. Savez-vous pourquoi ? Parce que j'ai pas l'impression d'être propre sur moi. Mais dans, propre sur moi, assez propre. Dans l'acception des anciens, les Arabes diraient « vif ». Dans le sens, j'ai peur des anciens. Si jamais on me met quelque part entre mon oncle, mon père, mes grands-parents, ou des trucs comme ça et tout, j'ai peur qu'ils passent leur mort à m'emmerder.
C'est un extrait d'un documentaire d'Elisabeth Levray qui s'appelle La Traversée, au cours duquel elle interroge des personnes qui font la traversée entre Marseille et Alger. Alors évidemment, c'est pour conclure cet entretien Nassera Belhaza, et qui a pour prétexte le livre Entre deux rives. Mais c'est surtout, et j'ai pas retrouvé la phrase là en feuilletant le livre, parce que je crois que vous avez dit à Frédéric Villemur que vous dansiez pour apprendre à mourir.
En fait, ce que je voulais dire par ça, c'est je crois que c'est Socrate qui a dit que philosopher, c'était séparer l'esprit du corps, donc c'est une manière d'apprendre à mourir. Et en fait, dans le travail que je fais, puisque je passe en permanence mon temps à non pas à dissocier, mais à relier différemment le corps et l'esprit, il y a un fort renoncement au corps, à sa matière, à ses propres limites, à ce qu'on sait de soi, etc. Il y a une forme d'effacement, oui, de soi, de renoncement.
Parfois, vous utilisez même le mot de dissolution.
Oui, dissolution, mais pas dans le sens où... il n'y a rien de négatif hein, dans ça. C'est pas dans le sens où je renoncerai à être ce que je suis, mais c'est encore une fois, ça procède de la même chose. C'est comment effacer le superflu en moi. Et sur le plateau, tout ce qui a trait à ma propre personne, à mon histoire de femme, etc., je considère que c'est superflu. Donc je dois me mettre en lien avec une part plus enfouie de mon être, que je sens être en résonance avec celle de l'autre. Et quand c'est à cet endroit-là, je me rends compte que... plus grand chose auquel je tiens en fait de ma propre personne, de ce que j'ai fabriqué et qui pourrait comme ça me tenir à cœur dans ce que je suis. Et c'est vraiment la découverte de ça aussi hein, qui m'amène à dire ça, c'est que d'avoir appris sur le plateau à renoncer à autant de choses qu'on pense être déterminantes et essentielles en soi, et découvrir que ça ne l'est pas.
En écoutant cet homme et en vous écoutant vous là à l'instant, je me dis que c'est une danse qui vous apprend peut-être à mourir au bon endroit et à renoncer au fait qu'il s'agirait de mourir à un endroit ou à un autre, par exemple pour reprendre la crainte de cet homme, à mourir ou en France ou en Algérie. Mourir au bon endroit.
Oui, c'est vraiment... je pense que c'est à ça que la vie nous éduque aussi, quand même. C'est une forme de renoncement, on s'attache aux choses et ensuite on apprend à y renoncer. Donc, et le plateau est l'endroit privilégié, idéal pour pouvoir s'exercer à ça. Mais c'est pas une intention chez moi. C'est-à-dire que je me dis pas, je vais sur le plateau pour apprendre à mourir. Je vais sur le plateau pour me débarrasser de tout ce qui pèse en fait. Et quand on rejoint cet endroit de soi, effectivement, on a l'impression que on est conscient de tout, on est relié à tout, et en même temps, on n'a plus du tout le poids qu'on avait avant. Après, par rapport à ce que disait ce monsieur, être enterré ici ou là-bas, n'empêche que ça reste une question pour moi aussi, parce que j'ai pas encore commencé à aborder, mais c'est vrai que c'est une question assez complexe. J'ai pas les mêmes peurs que lui, hein, d'être enterré parmi les anciens, mais c'est plutôt le sentiment d'appartenance. Oui, il y a la majorité de ma famille est là-bas. Et en même temps, c'est ici que j'ai vécu. En même temps, une autre partie de ma famille est ici. Mais c'est pas une question qui me préoccupe non plus.
D'ailleurs, quand il dit « toute terre est bonne à ensevelir », on entend bien que sa tante parle de la terre qui recouvre le corps. Mais moi, j'ai pensé à la terre qu'on mange quand on est enceinte.
C'était le cas de ma mère.
Ouais.
Ouais.
Je me suis dit, toute terre est bonne à ensevelir. Dans les deux sens.
Dans les deux sens, d'accord. La terre en Algérie, quand même, c'est pas la même.
Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's alright. It's alright. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say.
Par les temps qui courent, qu'est-ce que vous trouvez léger? Par les temps qui courent, qu'est-ce que vous trouvez beau? Vous avez le droit de répondre à aucune des questions. Par les temps qui courent, qu'est-ce que vous trouvez fâcheux? Par les temps qui courent, on se retrouve lundi à 21h sur France Culture, quand vous voulez sur franceculture.fr ou en podcast. Ce soir au son, c'était Julien Douminc, à la réalisation Milena Hellig, Romain Debec-Deliève, Corinne Amar et Jeanne Aléos m'aident à penser cette émission et je réponds @MarieRicheux sur Twitter.